Il nous a été transmis que là où deux ou trois seraient rassemblés, étaient rassemblés en son nom, nous ne serions pas seuls. Bien, nous sommes déjà plus nombreux. Nous ne sommes pas seuls. Et quand bien même nous aurions été, y compris pendant l'été, une communauté liée les uns aux autres, et spirituellement nous n'étions pas seuls. Nous sommes venus ce matin pour entendre la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Et nous sommes venus avec l'espérance que ce Dieu se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. La grâce et la paix soient sur chacun d'entre vous. Dans un des psaumes de la Bible, le numéro 27, des paroles racontent qu'une personne exprime sa certitude que le Seigneur est sa lumière, et il dit « De qui aurais-je peur ?» Une vraie question existentielle. Le Seigneur est le refuge de sa vie, de qui aurait-il crainte ? Et il va jusqu'à dire que même si une armée, en hébreu, une multitude campait contre lui, eh bien son cœur ne bougerait pas, ne tremblerait pas. Nos cœurs peuvent louer le Seigneur. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous. Seigneur, combien nous t'attendons. Amen. Nous allons prendre le psaume 65 dans notre recueil, vous le trouvez à la page 76. Nous y chanterons les strophes 1 à 4. C'est Emmanuel qui nous accompagne aujourd'hui à l'orgue et je lui ai demandé de jouer préalablement la mélodie pour que nous l'ayons en tête puisque ce chant est peu connu. Nous nous recueillons devant le Seigneur, oui, c'est devant le Dieu appelé très saint, le Dieu d'amour que nous pouvons reconnaître en notre fort intérieur, à l'aide de quelques mots que peut-être nous n'aimons pas Dieu comme il en est digne, s'il est Dieu et que nous y croyons. Nous pouvons confesser que c'est souvent loin de lui que nous cherchons. Nous sommes appelés par l'Évangile à convertir nos cœurs pour agir ensuite mieux au service des autres, pour les respecter, les consoler si nécessaire, être avec eux, les aider à s'aimer eux-mêmes parfois. Nous espérons que l'amour de Dieu va illuminer notre prière, que sa lumière changera notre vie et nous ouvrira les yeux. Amen. Tout en restant assis, je vous invite à prendre une nouvelle fois votre recueil et nous allons égrener le chant 4704. Pour l'instant, nous chantons la strophe 1, page 732. 4704, strophe 1. Recevoir l'annonce et la concrétisation dans nos cœurs du pardon du Seigneur. Il est écrit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour juger, mais pour pardonner. Non pas pour punir, mais pour faire grâce, et pas pour condamner, mais pour rendre libre. Alors nous pouvons nous lever. Nous sommes libres pour aimer Dieu. Libre pour aimer nos frères et nos sœurs, pour nous aimer nous-mêmes, il est dit que là où se tient le Fils de l'homme, là est la liberté. Et nous poursuivons notre cantique avec sa strophe 2, page 732. Recevoir la volonté de Dieu au travers d'une sorte de bénédiction que nous allons lire ensemble. Elle est sur votre feuille. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai Que la paix soit avec toi à cause de la maison du Seigneur, notre Dieu. Je recherche ton bonheur. Amen. Et voici maintenant les strophes 3 et 4 que nous allons chanter, toujours dans le même cantique. 3 et 4. Avant de lire les Écritures proposées pour ce jour, nous allons prier Dieu pour que ces Écritures, qui ne sont qu'à l'état brut que des lettres mortes, si le livre n'est pas ouvert, si la parole ne résonne pas, ça reste de la lettre morte, pour que ces Écritures deviennent insufflées, deviennent des paroles de vie. Et nous allons prier avec un père grec de l'Église, dit Éphrem de Nisib. Il dit « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. » Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. La parole de Dieu est un arbre de vie qui de tous côtés te présente des fruits bénis. Elle est comme ce rocher qui s'est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l'apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt, eh bien tu le recevras une autre fois si tu persévères. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé, dit Éphrem de Nisib. Amen. Voici maintenant les lectures du jour.
Nous lisons d'abord dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 7, les versets 7, 8 et 9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, Je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Puis nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, du verset 21 au verset 26. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela n'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie, et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Pierre ne veut pas que Jésus meure. Même si Jésus lui a dit qu'il se réveillera le troisième jour, Pierre ne veut pas que Jésus meure et même qu'il ressuscite, ça lui est égal. Même si Jésus sous-entend qu'il apparaîtra vraiment comme le Dieu d'Israël, qui est évoqué dans Exode 19, je lis, « Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Pierre ne veut pas que Jésus meure, ni qu'il se réveille d'entre les morts. Pierre ne veut pas d'un nouvel Exode. Il ne veut pas d'un nouvel ordre. Il ne veut pas d'une nouvelle espérance, puisqu'il a la sienne. Il veut que tout reste en place, que tout reste comme avant. Pierre ne veut pas d'une nouvelle alliance de son peuple. Va-t'en derrière moi, Satan, dit Jésus après la remarque de Pierre qui ne veut pas que Jésus meure. Va-t'en derrière moi, Satan, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plutôt une injonction qu'on peut voir comme assez amicale. Alors évidemment, on peut en faire des tonnes dessus, mais c'est comme quand vous, peut-être, quand vous vous moquez de quelqu'un, vous lui dites quelque chose un peu d'horrible, mais en fait, c'est amical. Va-t'en derrière moi, Satan, qui montre l'énergie de Jésus pour traiter un de ses disciples et amis, finalement, du nom propre, qui désigne celui qui, vous le savez, accentue le mauvais côté des choses, hein, le procureur qui s'élève contre la grâce, celui qui a voulu faire un procès à Job. Mais surtout, Jésus dit à Pierre, « Passe derrière moi », ce qui veut dire « tente enfin de devenir un disciple, un vrai disciple, celui qui suit son maître et non pas qui le précède par sa parole, même enthousiaste. Essuie-moi. » Et c'est de cette suivance, comme on dit dans le jargon théologique, dans cette suivance dont on lit les conditions dans la suite des paroles de Jésus pour ce dimanche. Alors nous sommes invités, en tous les cas, à écouter ce que Jésus dit à ses disciples juste après que Pierre a poussé son cri. Il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parenthèse, il est possible que déjà, même avant le supplice de Jésus, les innombrables crucifiés par le pouvoir romain arrivaient à donner un sens à l'expression « porter sa croix », car le supplicié, vous le savez, devait lui-même porter la croix qui allait le tuer. Raffinement romain de la torture. Porter sa croix, donc, ça devait être une expression déjà existante, peut-être pas au même niveau symbolique que pour nous aujourd'hui. Et aussi, de même que le vad retro satanas, l'expression « porter sa croix » est encore là aujourd'hui dans notre langage symbolique. Elle se présente en forme de lieu commun. Vous l'avez tous entendu, chacun a sa croix à porter. Chacun aurait une croix à porter. Et je vais vous confier un petit secret de prédicateur. Face à ce type de lieu commun, l'interprétation du prédicateur risque de ne pas faire le poids. Le risque, c'est que le prédicateur ou la prédicatrice s'entende dire à la sortie du culte, mais moi je devrais partir tout de suite, donc je ne vais pas l'entendre, s'entende dire « Ah oui, vous avez tout à fait raison, on a tous une croix à porter. » Alors que ni lui, ni Jésus n'ont jamais dit « On a tous une croix à porter. » Ce n'est pas dans le texte. Cette croix est symboliquement tellement lourde qu'elle réduit la possibilité d'une prédication. D'ailleurs, je suis certain que quelques-uns, en entendant cette phrase, ont déjà réfléchi à leur propre croix dont ils seraient chargés. Je les vois là sur vos têtes. D'ailleurs, moi-même, en débutant le travail d'interprétation, j'ai testé sur moi la pertinence de ce lieu commun et je me suis demandé quelle était ma croix que je portais. Mais notre travail, c'est de dépasser les lieux communs. Alors je lis vraiment ce qui est écrit. Jésus dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, alors vous avez bien entendu, si c'est une possibilité, une éventualité, et « veut », il s'agit d'une volonté. On ne peut pas être plus clair. Ce qui veut dire que personne n'est obligé de vouloir devenir un disciple de Jésus. Premier point donc, si nous ne voulons pas devenir un disciple de Jésus, ce qui n'empêche pas d'être chrétien, peut-être, dans la logique des paroles de Jésus, nous n'avons pas à nous charger de notre croix. Et si dans ce choix de ne pas vouloir devenir disciple de Jésus nous apparaissent quand même toutes ces croix dont nous sommes chargés et dont nous pouvons aisément nous plaindre, Ce n'est pas celle-ci dont nous parle Jésus. Ce n'est donc pas parce que nous portons une croix que nous sommes disciples de Jésus. Toutes ces croix n'ont rien à voir avec les recommandations de Jésus à ses disciples. Mais dans le cadre de cette éventualité, cette possibilité de choisir de devenir disciple de Jésus, nous pouvons quand même tenter d'imaginer ce que veut dire d'être disciple de Jésus. Cette question est légitime. Alors pour ma part, la seule façon d'intégrer Jésus à ce qu'on appelle ma spiritualité, au-delà de savoir qui est Jésus, c'est de me demander ce qu'est finalement concrètement cette discipline qu'il enseigne. Alors imaginons, je continue à lire pour commencer à savoir ce que ça peut vouloir dire être disciple. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Ah ben ça commence bien. J'ai cherché en grec pour atténuer un peu le propos et c'est pire. En grec, il s'agit d'un reniement total. Il s'agirait là d'un premier barrage, avant d'entrer par la grande porte et de prendre au pied levé le costume du disciple. On pourrait épiloguer longtemps là-dessus, sur cette violence que l'on est censé s'administrer, et le lecteur que je suis n'a a priori que peu de sympathie envers cette recommandation de se renier soi-même, au sens fort. Mais je note des points importants. Je note qu'il ne s'agit pas de se confier à un ordre, à une administration, à une personne, à un Dieu pour se faire renier. Un exemple, une anecdote. Je connaissais une paroissienne à Charenton qui s'appelait Nora, je peux la nommer, qui était membre du conseil presbytéral, qui était déjà assez âgée, et qui, avant de devenir protestante, avait passé 40 ans dans un couvent de dominicaines. Un ordre où on avait exigé d'elle qu'elle se renie complètement. Et d'après ce qu'elle racontait, c'était plus l'ordre qui lui était intimé que sa décision personnelle, car pendant ces très nombreuses années, avant une certaine libéralité qui a commencé à arriver dans les années 70, pendant de très nombreuses années, l'institution lui administrait des contraintes physiques et morales quasi journalières, dont par exemple celle de se faire piétiner à la moindre faute par les autres sœurs avant d'entrer dans le réfectoire pour déjeuner. Et ça n'a rien à voir avec ce que dit Jésus. Là, c'était vraiment l'institution à qui, par mégarde, on s'est confié un jour, qui emploie tous les moyens pour vous renier vous-même. Et vous êtes renié par l'institution et non plus par une démarche éventuellement personnelle. Là, d'après ce que je lis dans ce texte, j'entends donc, je lis, qu'il s'agit encore d'un acte personnel et vraiment volontaire. En quoi consiste-t-il? Comment pouvons-nous l'interpréter? Alors, c'est difficile, évidemment. Donc, on ne peut qu'explorer des voies. Il serait utile de regarder l'être social que nous sommes devenus en nous aidant éventuellement de notre propre expertise, mais aussi en passant en revue ce que les personnes évoquent de nous, déterminer, regarder l'être social que nous sommes devenus au fil du temps. L'être social, je dis bien, je ne parle pas de qui nous sommes intimement. De considérer toutes nos pensées, nos convictions, nos habitudes et nos préférences, et puis une fois ce travail fait, de se questionner. En quoi cet être social, celui qui apparaît au monde et qui m'apparaît aussi à moi-même, correspond-il à ce que profondément nous aurions souhaité, à ce qu'un jour nous aurions souhaité? Ne nous sommes-nous pas déjà bien reniés, arrivés là? Et auquel cas la recommandation de Jésus ne nous inviterait-elle pas plutôt à exercer un reniement de ce reniement que nous avions déjà fait, que nous avions déjà accepté de faire par la force des choses, des habitudes, de la lassitude et de la soumission. Sommes-nous heureux avec cette femme, avec cet homme-là, nous-mêmes? Et si oui, Si cet être social que nous avons inventé correspond à ce que nous souhaitions, ce que nous souhaitons, si on sent une concordance et que ce oui-là est sincère, alors le travail est peut-être déjà fait en fait. Et à mon sens, la recommandation de Jésus ne s'applique pas. Quel bonheur! Sinon, une trop grande discordance, si une trop grande dissonance, discordance nous apparaît, alors renions cet être-là, identifié de toutes parts, mal identifié, car ce n'est pas nous. Renions-le fortement. Dans quel but? Peut-être pour retrouver celui ou celle qu'un jour nous avions abandonné, parce que nous avons cru qu'il le fallait. Avant de porter sa croix, donc, une opération de délestage s'impose. Si toutefois, rappelons-le, nous souhaitions envisager ne serait-ce que l'idée de devenir un disciple de Jésus. Alors nous nous apercevons sans doute que cet être-là, qui en fait n'était qu'un moi social, était déjà une croix à porter, de ce type de croix imposée qui n'a rien à voir avec la discipline du Christ, ce moi non choisi, notre mariage d'oraison avec la société, notre idole finalement, notre maître, notre fonction non choisie. Le reniement de soi est ici explicitement la condition primordiale de notre libération et de, je le crois profondément, de nos retrouvailles avec nous-mêmes. Je continue à lire pour en arriver au cœur du débat. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors déjà, il ne s'agit pas de se charger de la croix du Christ dans une espèce d'imitation du Christ, et d'aller au bout du chemin, donc se faire tuer à la fin. Il n'est peut-être pas inutile de le préciser. Cette passion, celle du Christ, est un événement unique. Il s'agit bien, en revanche, de porter sa croix, mais pas d'aller au sacrifice ou à l'exécution. Il s'agit de se charger d'une croix qui est la nôtre, pas celle dont nous chargerions pour imiter le Christ. De la même façon que toutes ces images ne sont pas un chemin de croix, les gens qui rentrent pour la première fois dans ce temple disent « Oh, c'est comme les catholiques, il y a un chemin de croix ». Mais non, il y a un moment donné où Jésus porte sa croix. Le reste, ce n'est pas un chemin de croix en fait, c'est juste des étapes de vie. Ce n'est pas cette croix dont nous nous chargerions pour imiter le Christ, ni celle qui se serait abattue sur nous dans les termes d'une fatalité écrasante, les croix du lieu commun évoquées tout à l'heure, mais c'est la croix que nous choisissons. La question devient, qu'est-ce que j'ai à prendre, à porter, à me charger? Quelle croix? Celle que je choisis, c'est la mienne, mais il ne s'agira pas de la contempler comme un concept vague. Il s'agira de la porter, de porter ma charge pour l'accomplissement du troisième jour. Ce troisième jour est assez fréquent dans la Bible. À propos du troisième jour, vous pensez à la Genèse, par exemple. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, et là c'est intéressant, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Je peux alors commencer à comprendre ce que cette croix veut dire. Elle signifie mon choix de prendre ma responsabilité pour que la terre ferme apparaisse, pour que ce qui doit produire du fruit le fasse. Je commence peut-être à comprendre ce que peut signifier pour un disciple sa mission, se battre comme contre une forme de stérilisation de la terre, des sentiments, et rendre le monde habité, habitable. C'est comme un arbre de vie que je dois maintenant replanter, si toutefois je veux bien choisir de devenir un disciple de Jésus. Cette croix à porter ici, ça veut dire le choix de l'engagement concret qui n'est pas léger, que nous pouvons quand même faire si jamais nous voulons devenir un disciple. C'est lourd. Jésus ne dit pas « Soyez disciples, c'est facile, c'est cool. Il n'y a rien de spécial à faire. Vous êtes protestant ? Il n'y a rien à faire. » Jésus sait que de toute façon, la vie n'est pas forcément légère. Mais puisqu'il y a charge, autant la choisir soi-même, comme le poids du cadeau que nous apportons au monde par notre engagement. Au fond, c'est ce que les Japonais appellent le « ikigai ». Littéralement, ma raison d'être consciente, ma volontaire contribution au monde, mon choix de donner quelque chose au monde par mes capacités. Un choix, paraît-il, indispensable au bonheur de chacun. Voilà donc, en termes très éloignés du supplice évoqué par le terme de croix, ce que Jésus semble dire, et en cela, ça croise finalement ce que toute sagesse peut admettre, donner volontairement du sens à sa vie. Cette prédication a une suite assez courte, mais je vais m'arrêter là. Amen. Thank you.